Bonjour Gabriel Siri.
Bonjour.
La loi sur les violences sexuelles et sexistes a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Le texte a fait l'objet de débats houleux, en particulier sur son article 2. Cette disposition crée un nouveau délit, celui d'atteinte sexuelle avec pénétration, qui, pour ses détracteurs, n'est en fait rien d'autre qu'un viol. Pour vous, ce texte va à l'encontre de l'intérêt des victimes mineures ?
Alors sur l'article 2, oui, très clairement, le Parti socialiste a donc voté contre à l'Assemblée nationale et a engagé un dialogue auparavant avec les associations sur ce sujet, parce que le problème est celui que vous évoquez. On pense que à l'inverse de renforcer la dissuasion sur les viols sur mineurs, ça a exactement l'effet opposé. Mmh. Parce que ça crée une catégorie un petit peu intermédiaire qui risque de correctionnaliser en fait un certain nombre, donc de renvoyer vers les correctionnels.
Oui, ça ne serait plus passible des assises, mais du tribunal correctionnel.
Sur mineurs. Alors, les viols sur mineurs sont toujours un crime, mais ça deviendrait plus difficile à caractériser, parce qu'il faut prouver, en cas de viol, il faut prouver le non-consentement de l'enfant, et c'est bien ça le problème. Et donc nous, ce qu'on a proposé, ce que le Parti socialiste a proposé comme amendement, c'était de fixer un seuil, un âge minimum, en dessous duquel le non-consentement est automatiquement reconnu. Et cet âge, c'était 13 ans.
Ce qui institue une présomption de culpabilité, c'est l'un des problèmes de droit,
alors,
je crois, non ?
Ce qui institue, on va dire, le fait de considérer qu'en dessous d'un certain âge, on n'a pas le discernement nécessaire pour consentir un acte sexuel. C'était l'intention initiale du gouvernement. Donc il y a eu un recul sur ce point qu'on condamne fortement.
Bon, le texte sera examiné maintenant au Sénat. Le projet de loi comporte également la verbalisation du harcèlement de rue. Les personnes coupables d'outrage sexiste, c'est-à-dire en flagrant délit d'insulte, de menace, de regard insistant ou obscène, de sifflement, seraient punies d'une amende de 90 euros. Est-ce que vous croyez à l'efficacité de ce texte, dont on comprend bien l'intention, mais enfin, comment va faire l'agent de la force publique qui constate que quelqu'un a un regard insistant? À partir de quel moment va-t-il dire « il me semble bien que ce regard-là est insistant, je vais intervenir ».
C'est le second problème de cette loi. Il s'agit en fait d'une loi exclusivement répressive. Il n'y a pas de volet préventif et il n'y a pas de volet de formation des agents. Donc c'est pas prévu dans le cadre de cette loi qui fait seulement 4 articles. Et donc effectivement, comme vous le dites, il y a une question sur l'application de cet article spécifique. Et en Espagne, par exemple, où une loi similaire mais beaucoup plus ambitieuse a été votée en 2004, il y a eu un processus de spécialisation des agents, à la fois dans la police, mais aussi dans les tribunaux, pour s'assurer qu'ils seraient capables donc d'appliquer ce texte. Donc ça veut dire dans les tribunaux, par exemple, être capable de recevoir la parole des femmes, ce qui est très important, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 60% des plaintes qui sont soit découragées, soit abandonnées, faute de réception correcte par l'agent concerné. Donc ça, c'était un volet aussi très important à aborder et qui ne l'a pas été. Et c'est très dommageable.
En Italie, le mouvement 5 étoiles et la Ligue ont trouvé un accord de gouvernement. Le Premier ministre devrait être dévoilé en début de semaine prochaine. Un mouvement populiste, un parti d'extrême droite allié pour diriger un pays fondateur de l'Union européenne. Est-ce que vous diriez que l'Europe est en train de vivre un tournant ?
Oui, l'Europe est à un tournant depuis un certain moment. Ce n'est pas le premier signal qu'on a reçu. Mmh. Il y a quand même eu le Brexit en 2016. Il y a eu la Catalogne récemment. Là, on a ce cas en Italie. On a la montée des populismes un petit peu partout en Europe. Je vous parle de ces phénomènes ensemble parce que je pense que c'est des manifestations tout à fait du même phénomène. C'est-à-dire qu'on est dans une Union européenne où les inégalités continuent de croître alors les inégalités, qu'elles soient territoriales, au niveau de l'Union européenne dans son ensemble, et les politiques de convergence n'ont pas réellement permis d'indiquer cet effet-là, et puis les inégalités sociales à l'intérieur de chaque État. Et donc, en Catalogne, il y a eu comme ce phénomène d'indépendantisme régional a été une des traductions de ce mal-être aussi. Ça a été le cas en Grande-Bretagne où ça s'est traduit par un phénomène plutôt nationaliste. Et puis en Italie, donc cette arrivée au pouvoir des populistes, pour moi, ce sont des phénomènes qui sont à mettre en relation. Et ça doit nous interroger sur la direction que doit maintenant prendre le projet européen. C'est-à-dire que la réduction des inégalités doit revenir au cœur de ce projet et c'est la raison pour laquelle il est important aussi de pouvoir s'opposer à des politiques économiques de droite néolibérale, politiques d'austérité qui sont menées à l'échelle européenne et pour ça on a besoin d'une opposition de gauche au Parlement européen.
Il y a des éléments du programme du mouvement 5 étoiles et de la Ligue qui ont fuité, qui ont été révélés par la presse, qui sont inquiétants en tout cas aux yeux des partenaires de l'Italie au sein de l'Union européenne sur la dette. On parlait d'une demande de remise de dette de 250 milliards d'euros sur le mode de calcul de la dépense publique, sur les traités européens, mais tout cela, au fond, traduit ce dont vous parliez, cette espèce de ras-le-bol d'une Europe qui veut tout diriger. C'est bien de ça qu'il s'agit.
C'est... Alors, sur la remise de la dette, c'est intéressant, parce que là aussi, on voit bien qu'il va y avoir un sujet avec l'Allemagne. C'est-à-dire que pour l'Allemagne, malgré les efforts d'Emmanuel Macron, il est hors de question de concéder des transferts financiers quels qu'ils soient, de concéder une mutualisation de la dette. Donc là, on va arriver quand même à un blocage assez fort. Et donc, il y a deux conséquences. La première, en termes de diplomatie extérieure, c'est qu'il... À mon sens, ce qu'essaye de mettre en place Emmanuel Macron est inefficace. Et je pense qu'il le sait, parce que les Allemands, ça fait des années qu'ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils ont déjà du mal parfois, la Bavière même, à faire des transferts financiers envers l'Allemagne de l'Est. Donc c'est absolument hors de question. Donc il faut arrêter d'aller essayer de convaincre l'Allemagne coûte que coûte et en échange de mettre en place en France des politiques de flexibilisation du marché du travail parce que c'est ça qui le justifie. Ce serait du donnant-donnant. En réalité, c'est pas du tout du donnant-donnant parce qu'on n'obtiendra rien.
On peut lire, Gabriel Séry, sur le site du Parti Socialiste qui dresse de vous un petit portrait que vous travaillez actuellement dans le domaine de la supervision financière. En début de semaine, l'ONG Oxfam a publié une étude sur les versements de dividendes des entreprises françaises du CAC 40. Il en ressort qu'entre 2009 et 2016, elles ont été les championnes du monde en la matière avec 67,4% de leurs bénéfices redistribués en dividendes. Est-ce que ça n'était pas un combat que la gauche aurait dû mener quand elle était au pouvoir?
Alors, c'est un combat dans tous les cas qui est mené en ce moment par la gauche, pas seulement quand elle est au pouvoir, puisque
elle a plus de moyens d'action quand elle est au pouvoir, a priori.
Parce qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée par le groupe socialiste à l'Assemblée pour permettre une codétermination dans les entreprises et donc une présence supérieure des salariés, donc de 50%, dans les conseils d'administration, les comités de rémunération, et donc permettre une répartition différente. Ensuite, c'est ce que vous dites est intéressant parce qu'il y a la répartition initiale des revenus, donc cette distribution des bénéfices, mais derrière, il y a un outil dans le cas où cette répartition est inégalitaire. C'est l'outil fiscal. Et la politique fiscale, elle a été très fortement utilisée par le gouvernement précédent pour mettre en place une politique fiscale plus progressive, suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu, lutte contre la fraude fiscale. Et cet outil fiscal, aujourd'hui, il est complètement abandonné par le gouvernement. On le voit bien avec suppression de l'ISF, suppression de l'exit tax. Donc c'est un combat qu'il faudra continuer de mener et que la gauche mène en ce moment.
Merci Gabriel Séry. Bonne journée.